Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à notre rencontre de ce soir, qui a pour thème autour d'une session qui a lieu actuellement ici en Avallon. Vie, mort et renaissance. Et j'ai entendu dire que la session qui est animée par Lama Samten, c'est bien cela, que vous aviez préparé ou souhaitiez aborder quelques questions qui ont des rapporteurs qui sont s'il vous plaît.
Oui, il y a deux questions qui ont émergé.
Dites-nous.
La première question était: quelle est la différence entre l'âme et l'esprit?
Oh, quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? Alors, parlons déjà de l'âme, parce que d'une certaine façon, c'est le plus facile. Peut-être. Mais pour parler de l'âme, il faudrait déjà s'entendre sur ce que l'on comprend dans cette notion d'âme. Alors, il y a beaucoup de notions . Il y a la tripartition traditionnelle classique, corpus, anima, spiritus, corps, âme, esprit. Disons, dans une première approximation et au sens commun, l'âme, alors, dans un contexte monothéiste, est une je ne sais pas comment dire, mais un caractère que l'on dit certaines fois immortel ou qui continue, et donc notre âme dans sa continuité suivant les circonstances, je parle toujours dans le contexte monothéiste et d'une façon très simple. C'est notre âme qui se retrouve au paradis ou en enfer pour l'éternité. Et il y a la notion d'une, on peut dire une entité stable et durable dans sa stabilité, avec un caractère indépendant, personnel, individuel, qui, suivant les formules, atterrit, si j'ose dire, au paradis ou en enfer, ou dans des versions un petit peu plus complexe. Et l'entité constante dans une perspective de métempsychose ou de transmigration. À ce moment-là, l'âme est en quelque sorte cette entité spirituelle qui est stable et continue de naissance en naissance dans le cycle de, dans un cycle de renaissance. Donc, si l'on entend ces, cette définition appartiennent d'une part au monothéisme et d'autre part, dans une certaine mesure, à l'hindouisme et au brahmanisme. Je dis bien dans une certaine mesure. Ces définitions où une âme, l'âme ainsi comprise, du point de vue du dharma, n'existe pas. C'est dans ce sens que je disais que c'était peut-être le plus facile. Alors, dans une dans un raccourci, les bouddhistes n'ont pas d'âme. Mais si l'on voulait être un petit peu teasing you, vous plaisantez un petit peu, personne n'a d'âme. L'âme est une chimère inexistante. L'âme, en tant que cette entité stable, permanente, le modèle de l'âme, c'est la petite boîte noire indestructible qui passerait de corps en corps. Hein. C'est une incohérence logique et c'est une... Personne n'a jamais vu une telle âme, n'a jamais trouvé une telle âme. Et plus l'on examine, plus l'on cherche et plus l'on entre dans l'expérience, plus l'on découvre qu'une telle âme, tout simplement, n'existe pas. Alors, on en parlera, si vous voulez, si vous avez des questions, si vous souhaitez des remarques, des observations, on en peut débattre ou discuter. Alors, maintenant, l'esprit. La notion d'esprit est très délicate parce que esprit est un mot on ne peut plus vague ou général. Il y a toutes sortes d'esprits. Il y a l'esprit pur, il y a l'esprit impur, l'esprit éveillé, l'esprit illusionné. Nous en parlions hier avec les deux aspects de l'esprit, pur, impur, éveillé, illusionné. Et esprit, donc peut-être l'esprit éveillé, l'esprit conditionné, alors, l'esprit est dans la nature et non-duel, non-dualiste, ou l'esprit qui, dans l'illusion, vit dans la dualité. À ce moment-là, l'esprit impur ou dualiste est synonyme de conscience. Il y a des rapports entre aussi l'esprit et le mental, l'intellect, beaucoup de termes. Donc, esprit est une notion très générale et aussi très vague. Alors, si on veut continuer, il y a aussi des esprits, il y a aussi les esprits. Esprit, si tu es là, frappe une fois. Si tu n'es pas là, frappe deux fois. Donc, si l'on utilise le terme esprit, vous ne ferez jamais d'erreur en demandant « Mais de quoi parlez-vous ? De quoi s'agit-il ? Ou de quel esprit parlez-vous ?» Si l'on fait maintenant un lien entre esprit et âme, on pourrait dire que l'âme est la conscience. Vous savez, dans notre contexte français, on dit souvent « en votre âme et conscience ». C'est une façon de concilier, en quelque sorte, la dimension religieuse et républicaine. la perspective théiste de l'âme et la conscience d'un point de vue, disons, non confessionnel. Donc, de ce que nous avons dit précédemment sur l'âme, vous comprenez que nous nous situons plutôt, et même complètement, dans la perspective non confessionnelle, dans laquelle l'esprit peut être vu comme la conscience, c'est un aspect de l'esprit, la conscience, où la conscience est un mode cognitif. Ce n'est pas une chose, la conscience. Et tout comme l'âme, ce n'est pas quelque chose qui est situé dans la glande pinéale. Il y a eu des versions comme ça, même je crois que c'était Descartes. Aujourd'hui, dans les sciences de la cognition, on parle d'une boucle cognitive ou d'une boucle de la conscience dans laquelle le sujet conscient et l'objet dont le sujet est conscient, dans la conscience de, les deux, sujet-objet, observateur-observé, se posent l'un par rapport à l'autre dans une l'un se pose dans la relation qu'il entretient avec l'autre, en projection et introjection, on peut dire, en quelque sorte. Donc, la conscience est ce mode cognitif qui nous est habituel. Et nous sommes Homo sapiens sapiens, on n'utilise plus tellement, paraît-il, cette terminologie, mais quand même, conscient et conscient d'être conscient. La conscience peut être comprise comme l'âme, au sens où c'est ce à quoi l'on s'identifie et ce comme quoi l'on se vit. Et des personnes qui sont dans un schéma, je ne sais pas s'il faut dire animiste, mais où, disons, de croyance à l'âme, se vivent comme leur âme. Et une personne qui est dans l'expérience ou dans de la conscience, alors, se vit comme sa conscience. Donc, en ce sens, il y a un rapprochement. Et la conscience a différentes strates qui sont aussi dans la phénoménologie traditionnelle, celle du mental. Il y a, par exemple, une conscience mentale, conscience visuelle, conscience auditive, olfactive, gustative. Tous les sens ont une conscience qui est ici, plus particulièrement, l'expérience sujet. Donc, la conscience visuelle est l'observateur des formes visuelles, c'est comme ça qu'on parle, des objets de la vue. Pour le mental, c'est un petit peu plus délicat, il y a la conscience mentale qui est le sujet des objets mentaux, que sont les pensées. Donc, il y a ces consciences sensorielles qui sont le premier niveau de la conscience duelle. Et sur ces consciences sensorielles vient en quelque sorte se surimposer ce qu'on appelle le mental souillé. C'est-à-dire un sens d'individualité qui vient, ce sens du moi-je, qui se surimpose à l'expérience de base de la conscience. Et c'est ce que l'on nomme aussi l'ego individuel ou l'ego personnel. Et si l'on faisait un parallèle avec l'âme, en fait, l'âme, c'est l'ego. Ou l'illusion de l'ego, qui est l'illusion d'une entité indépendante, stable, et l'illusion de l'âme sont la même illusion. Ça peut être un petit peu plus complexe, en particulier si l'on envisage l'âme et le fond de l'âme. Ça existe aussi. Mais à ce moment-là, l'âme reste l'âme, et qui est comme l'esprit individuel, dans ce que l'on vient de dire, assimilable à cette conscience individuelle, et le fond de l'âme peut être compris comme le fond de l'esprit. Et le fond de l'âme est susceptible d'être compris comme étant divin. Mais là, nous sommes, je fais un parallèle avec des conceptions théistes, ça n'est pas la compréhension et l'acception habituelle. Donc, restons-en à l'âme. Donc voilà, l'âme et l'esprit. l'âme est un cas particulier de l'esprit dans les conceptions théistes. Et foncièrement, c'est ce que l'on peut appeler l'illusion de l'ego individuel, c'est-à-dire d'une entité individuelle, indépendante, autonome, stable et perdurante. Peut-être qu'on voit votre deuxième question et puis après on ouvrira la...
Oui, donc pendant l'enseignement, nous avons entendu que la vie et la mort ne sont que des changements. Et la question était, est-ce que le suicide pourrait être considéré comme une accélération de ce changement?
Donc il y a deux questions. Il y a la vie et la mort comme changement. C'est clair qu'il y a un changement. Mais la difficulté ici est qu'en Occident, nous avons tendance à opposer la vie et la mort. Et nous sommes dans les conceptions occidentales, issues des conceptions théistes, mais qui ont fait école, qui se sont généralisées, nous avons une vision ou tendance à avoir une vision linéaire de la vie, qui va d'un début jusqu'à une fin qui est la mort, et avec cette opposition vie et mort. Dans la perspective du Dharma et dans des perspectives orientales et naturelles, fondamentales d'une façon générale, la vie n'est pas linéaire, mais la vie a un caractère cyclique. La vie est un cycle avec des apparitions et des disparitions. Et il y a la naissance et la mort qui sont la naissance, apparition, la mort, disparition. Alors il y a bien début et fin, mais non pas dans une perspective linéaire avec une origine première et une fin dernière, mais dans une perspective circulaire. Comme dans la nature, il y a un printemps, été, automne, hiver, printemps, été, automne, hiver, et ou comme la graine pousse, croît, fleurit, fructifie, et le fruit à son tour mourant comme fruit ou comme fleur, il devient fruit, et le fruit mourant à sa qualité de fruit devient graine, et le cycle recommence. Donc la nature est cyclique à différents niveaux, et la vie ainsi est cyclique. Et il y a, si l'on voulait, naissance, mort, renaissance et remords, etc. Donc, là, c'est un premier point. Dans votre question, il y a aussi, est-ce que le suicide accélérerait le changement ? Hein? Clairement, clairement. Si vous êtes en vie et que vous vous suicidez, ça accélère la mort et le changement. Voilà. Donc précisez la question autrement si vous voulez.
Je pense que c'était plutôt seulement une accélération ou simplement une accélération.
Non. Si c'est seulement ou simplement une accélération, c'est simplement une accélération parce qu'on meurt de toute façon. Et ça n'est pas seulement une accélération parce que le fait de se suicider n'est pas réductible au seul fait d'accélérer à mort.
Oui, je pense que c'était plutôt sur ce point que portait la question.
Mais quelle est... Alors, si on... d'une façon générale, c'est pas un bon plan de se suicider, en bref. C'est pas un bon plan de se suicider. Dans la perspective du Dharma, l'harmonie de la vie se développe, se cultive et s'entretient dans une attitude de non-violence. De non-violence de l'ego. Non-violence de l'ego. Et cette non-violence de l'ego appelle, incite, invite à protéger la vie, à respecter la vie que l'on est, à respecter la vie que je suis, et à ne pas détruire celle-ci. La destruction de la vie est toujours un acte violent, quand on détruit intentionnellement la vie, et particulièrement détruire sa vie, se suicider, est un acte d'auto-violence et d'auto-agression, qui est, de différentes façons, n'est pas une... bonne solution, car cela amène, dans une situation, fût-elle de souffrance extrême, encore plus d'agression, et somme toute aussi de souffrance. Alors, je sais que ça peut être très difficile, et nous avons fait partie de commissions éthiques, et aujourd'hui, c'est un débat de société de savoir si le suicide assisté, comme il se pratique en Suisse, les associations de type Exit, et certains d'entre nous ont été amenés à accompagner des personnes dans cette situation. Mais ce qui est important, c'est fondamentalement important, c'est une attitude de non-violence. C'est-à-dire de compassion, que ce soit vis-à-vis de l'autre ou que ce soit même vis-à-vis de soi-même. Et c'est ce critère de non-violence qui prime finalement dans l'appréciation de ce qui est sain et, si l'on veut, éthique, dans une perspective d'éthique naturelle, d'éthique de santé. Et c'est la raison pour laquelle le véritable suicide est toujours découragé et où il y a une solution, des solutions, une possibilité avec laquelle il est important de travailler, hein, plutôt que de vouloir en finir vite fait d'une façon auto-agressive. Voilà, je ne sais pas si ça peut amener quelques éléments sur le sujet. Peut-être à ce point peut-on donner la parole à celle ou à ceux qui la souhaitent sur notre thème et à la suite de cette introduction.
En attendant, je peux poser une question sur le net, en attendant qu'on donne un micro à la jeune demoiselle. Vie, mort et renaissance sont le résultat du karma. Concrètement, comment celui-ci se transmet-il au fil des réincarnations ? Par la conscience, par l'esprit, par l'âme ? C'est une question de Benoît de Besançon.
Benoît, bonsoir.
Merci Benoît.
Pardon ?
C'était ma question aussi.
Donne. Redites-la nous de façon concise, une petite reformulation synthétique, s'il vous plaît.
Oui. Comment se transmet
le karma.
Le karma au fil des réincarnations.
Comment se transmet le karma au fil des réincarnations. Alors, c'est une très bonne question, très classique. Dans le Dharma, d'abord, on n'utilise pas beaucoup la notion de réincarnation. Alors, bien, comment ? Certaines fois, il y a des personnes qui viennent vers moi, je me dis, ah, vous êtes bouddhiste, hein ? Alors vous croyez en la réincarnation ? Je leur dis, oh non, certainement pas. Ah ! Et je leur dis, non, parce que d'abord, il ne s'agit pas de croire, et secondo, parce que la réincarnation n'est pas un enseignement du Bouddha. Ah, mais je croyais. Ben non. Là, c'est vrai que le terme est très utilisé, et certaines fois, comme il est entré dans le vocabulaire classique occidental, courant occidental, il est même employé par des érudits ou des maîtres bouddhistes. Mais à proprement parler, ce que le Bouddha a enseigné, c'est la renaissance. Vous allez me dire, ah, oh, renaissance, réincarnation, c'est du même au pareil. Non. Non. Parce que réincarnation, c'est une nouvelle carnation. Il y a dans carnation, c'est la chair. Donc, c'est un retour dans la chair et la notion de réincarnation véhicule très fort cette notion animiste, en quelque sorte, d'une âme qui se réincarne et se réincarne, la même âme qui, hop, reprend corps de façon successive, la petite boîte noire indestructible qui, hop, reprend un nouveau corps et ce serait « Coucou, c'est moi que revoilà. » C'est un côté sympathique. Mais ça n'est pas vraiment l'enseignement du Bouddha. Le Bouddha a enseigné la renaissance. Et effectivement, la renaissance se produit sous l'influence et par le karma. Alors, qu'est-ce que le karma ? Le mot karma, en sanskrit, peut se rendre en français par activité. Qu'est-ce que le karma ? C'est l'activité. L'activité au sens large et l'activité en général et en particulier l'activité de l'esprit, l'activité de la conscience. L'activité de la conscience. Et karma, dans la phénoménologie du dharma, l'abhidharma, et associé ou correspond à ce qu'on appelle les samskaras. Samskara, le terme sanskrit peut se rendre par tendance formatrice ou même information. Information, en entendant information comme ce qui donne forme à, ce qui informe, ce qui met en forme. Dans l'imagerie traditionnelle, cette information est le potier qui met en forme la matière prima, la matière première qu'est l'argile et qui lui donne la forme d'un pot. Hein? Le potier informe la glaise et de celle-ci fait un pot. Alors, le karma, activité, est l'activité dans tout son déploiement de la cause à la conséquence. C'est le déroulement de cette activité. Il y a des causes qui sont les actes conscient que l'on fait. Et cette activité consciente, ces actes conscients génèrent des empreintes. Ce sont ces empreintes que l'on nomme aussi ces samskaras dont nous parlions. Des empreintes qui, à leur tour, lorsque les circonstances extérieures sont réunies, vont se manifester sous forme de propensions qui vont informer de nouveaux états de conscience. Donc, il y a une relation causale et une succession depuis la conscience agissante jusqu'à la conscience qui est agie ou qui est conditionnée par les informations qui proviennent des empreintes elles-mêmes induites par la conscience agissante de l'acteur. Vous me suivez dans ce que je raconte là ? Bon. Donc la question, c'est ce karma ou ces empreintes karmiques, où restent-elles ? Où sont-elles ? Alors, dans la perspective Chittamatra Yogacara, qui est particulièrement claire et pertinente pour exposer cela, ces empreintes karmiques demeurent dans ce que l'on nomme la conscience fondamentale. Il y a 8 types de conscience, 6 associées au sens, la 7e que j'ai mentionnée tout à l'heure comme la conscience perturbée ou souillée qui est la conscience individuelle, et la huitième conscience est la conscience fondamentale. Et les empreintes, cette conscience fondamentale, qui est aussi la conscience de tréfonds, c'est un peu plus que ce qu'on appelle en Occident l'inconscient, même en voyant un inconscient collectif. Cette conscience fondamentale est infuse et diffuse comme le fond de toute chose. Et donc, la réponse, c'est les empreintes karmiques subsistent sous forme de potentialité dans la conscience fondamentale jusqu'à ce que les circonstances soient telles que cette potentialité s'actualise, informant, modelant et formant un nouvel état de conscience. Qu'est-ce que vous en dites? Donc ça, c'est de la phénoménologie bouddhiste très classique. Hein. Anaïs, s'il vous plaît.
Est-ce que, du coup, on pourrait dire que si l'esprit était une mère, ça voudrait dire que, mettons... les karmas, on va dire, donnent une couleur à une certaine partie du fluide, et que quand il y a une vague qui arrive et qui prend on va dire, l'endroit, enfin qui naît de l'endroit où on va dire que c'est rouge parce que il y a de la colère ou n'importe quoi, elle devient rouge et ensuite pouf, elle retombe dans la mer qui est l'esprit.
La conscience fondamentale, c'est une image que l'on peut utilisée, les consciences individuelles étant comme des vagues à la surface de l'océan de la conscience fondamentale. Mais à ce moment-là, dans cette image, le karma est le vent, le souffle karmique qui modèle les consciences individuelles sur la base ou à partir de l'océan fondamental. C'est un petit peu différent.
Mais alors pourquoi on se soucie de...
Non, je ne sais pas.
Alors, le point suivant, c'est que dans cette perspective... de renaissance, l'on récolte ce que l'on sème. Il y a dans la vision et dans l'enseignement du karma une notion de liberté et de responsabilité. De responsabilité parce que l'on récolte ce que l'on sème. Et comme il y a une relation causale, et telle cause a tel effet, il n'y a pas d'effet sans cause, et il n'y a pas de cause sans effet. Donc c'est inéluctable. Et l'on récolte ce que l'on sème. Et il y a donc une responsabilité. Et... il y a aussi une liberté. Le karma n'est pas un déterminisme. Le karma amène des déterminations, mais jamais un déterminisme au sens d'une détermination inéluctable. Alors, nous sommes tous et toujours dans nos états de conscience déterminés par nos empreintes karmiques ou notre héritage karmique, si on utilise ce genre de terminologie, qui nous amène à avoir certaines caractéristiques, certaines cultures, une certaine langue, une certaine mentalité, certaines prédispositions, certaines tendances, aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel. Mais il y a toujours une part de liberté. Il y a une détermination, une tendance et une part de liberté qui peuvent varier beaucoup. Ça peut être du 80-20 ou du 90-10. Il peut y avoir 10% de liberté ou 90% de liberté ou 10% de détermination ou 90%. Bref, des proportions variables. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a néanmoins toujours une part de liberté. Ça n'est jamais un fatalisme, déterminisme, fatalisme. Et là, c'est très important parce qu'il y a des compréhensions erronées du karma qui font du karma une sorte de fatalisme. Oh, ils sont dans la pauvreté, ils crèvent de faim, c'est leur karma. Non. Non. C'est ce genre d'interprétation scandaleuse qui mérite que l'on s'indigne et ne pas laisser courir de telles compréhensions qui sont d'ailleurs plus hindous que bouddhistes, hein, même franchement. Donc, l'enseignement du karma est un enseignement de responsabilité et de liberté. Et les deux sont liés parce que nous sommes responsables car nous sommes libres. Et nous sommes d'autant plus responsables que nous sommes plus libres. Est-ce que ça répond à votre question ? Rémi, s'il vous plaît.
Rinpoche, tout à l'heure, vous avez évoqué que les conditions, lorsque les conditions s'actualisent, les empreintes prennent un nouvel état de conscience. On imagine sous une forme. Est-ce qu'on peut aller plus loin et parler des différentes formes ?
Des différentes formes que la conscience est susceptible de prendre.
Oui.
La conscience est susceptible de prendre beaucoup de formes et alors dans la typologie classique, traditionnelle classique, la conscience est susceptible de prendre six formes principales que l'on nomme les six le cas ou les six mondes de la conscience qui correspondent à des états de conscience caractérisés par une intensité de polarisation et une tonalité dans le contenu émotionnel ou passionnel. Donc, il y a une question d'intensité et de coloration. Et en termes d'intensité, les états de conscience les plus intenses et les plus polarisés sont ce que l'on nomme les états de conscience infernaux. Les états dans lesquels la conscience s'enferre dans le non, se cognant la tête contre le mur de ses projections. Puis il y a les états de conscience dits avides, puis les états de conscience dits de bêtises, puis les états de conscience du désir-attachement, les états de conscience encore de rivalité, jalousie, et les états de conscience d'autosuffisance ou d'orgueil. C'est la typologie traditionnelle des Simons.
Il y a beaucoup de questions sur Internet. C'est un peu tard.
Alors, est-ce que, vu l'heure, on les abordera demain ? Après-demain. Parce que demain, c'est dimanche. Il n'y a pas d'entretien.
Très bien.
Ou bien, vous en avez combien ?
1, 2, 3, 4. 4. Mais c'est très, on peut les faire en question-réponse rapide, comme vous préférez.
Alors, 10 secondes par question, c'est parti.
C'est parti. Une question de Sully de Malaga. Dans notre contexte occidental, est-ce que le Kunshinamche ne serait-il pas l'âme ?
Non, si ce n'est si l'on disait l'âme universelle. Next one.
Une question de Benoît de Besançon.
Benoît, bonsoir.
On appréhende la vie comme étant une étincelle, la mort comme l'éternité. Qu'en est-il vraiment ?
La vie, une étincelle, la mort, une éternité. La vie, un feu. La mort, une extinction, et le phénix se renaît de ses cendres. S'il vous plaît.
Alors, une question d'Adriano de Naples. Je vais la traduire parce qu'elle est
Adriano,
en italien.
Bonsoir.
Alors, bonsoir. Vous avez dit que la renaissance n'est pas quelque chose en quoi croire. Et à propos de cela, vous avez donné l'exemple du cycle des saisons. Mais je voudrais savoir, s'il vous plaît, cette affirmation se base aussi sur le fait que l'on ne peut pas avoir l'expérience de la renaissance, comme par exemple dans le bardo de la mort.
Quelle est la question ?
Oh là là. Alors, je vais réessayer, parce que je la traduis et j'arrive pas à m'en souvenir après, en fait. Je voudrais savoir, en fait, alors, si cette affirmation que la renaissance n'est pas quelque chose auquel on peut croire, comme vous avez dit, se base sur le fait qu'on ne peut pas avoir l'expérience de la renaissance, comme par exemple dans le bardo de la mort.
Ce que je suggérais, c'est que dans le dharma, qui n'est pas une religion confessionnelle, c'est-à-dire fondée sur une croyance, il ne s'agit pas de croire, mais de comprendre dans l'expérience. Donc, il est juste de prendre certaines notions comme des hypothèses en lesquelles on peut avoir confiance et avoir confiance en le principe de la renaissance est très sain, très bon, bien qu'il ne s'agisse pas d'y croire au sens d'un dogme. Et dans l'apprentissage, le triple apprentissage, son intelligence et son expérience, sa compréhension et son expérience s'approfondissant, le sujet s'éclaire de plus en plus. s'il vous plaît. La dernière.
Non, c'était la dernière.
Alors, une petite pause, un moment de...
Merci.
Merci à vous. Petit moment de contemplation, pleine présence. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue. Bonsoir à tous, que tout soit propice et au revoir.